Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour et bienvenue dans Le Temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, nous passons une heure avec Don DeLillo, l'un des plus grands écrivains américains contemporains, peut-être même le plus grand. Bonjour, Don DeLillo.
Hello, I'm glad to be here.
Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Alors Don DeLillo, c'est vrai, c'est peut-être aujourd'hui le plus grand écrivain américain, révéré par nombre d'écrivains, de Paul Auster à Bret Easton Ellis. Il a été consacré par le National Book Award en 1985. À 81 ans, cette année, il est l'auteur de 17 romans ainsi que d'un arsenal conséquent de nouvelles et pièces de théâtre. Depuis maintenant près d'un demi-siècle, il décrit l'Amérique dans ses malaises, dans ses angoisses et dans ses crises d'identité au point peut-être de bâtir ce qu'on pourrait appeler une contre-histoire de l'Amérique. Dès 1971, avec Americana, il proposait une critique décapante du pouvoir des images et des médias. Dans Joueur, il faisait se percuter le monde de la finance et le terrorisme international, n'oubliant pas de s'arrêter sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy dans Libra. La menace nucléaire était aussi d'actualité. Les guerres américaines au Proche-Orient dans Point Oméga, la finance folle et son crash dans Cosmopolis, adapté au cinéma par Cronenberg avec le jeune Pattinson. Son dernier roman, Zero K, s'éloigne de tout écoulement temporel pour embrasser plus pleinement les questionnements métaphysiques qui irriguent son œuvre, puisqu'il est question de la quête contemporaine de l'immortalité. De la mort, donc. Enfant du Bronx, promeneur de Manhattan, Don DeLillo prête sa plume et son art pour définir la condition de l'homme occidental contemporain à travers des personnages désorientés, des scènes d'une incroyable richesse visuelle aussi. On le dit aussi, et ça le fait bondir, Don DeLillo, on le dit visionnaire parce qu'il semble avoir tout prévu, notamment un avion s'écrasant sur le World Trade Center dans Joueur, 24 ans, avant le 11 septembre. C'est vrai, ça vous fait bondir? Vous en avez marre, Don DeLillo, qu'on vous traite de visionnaire?
I never think of myself as a visionary, certainly not.
Je ne me considère certainement pas comme un visionnaire. Je ne l'ai jamais fait.
There are aspects in some of my
books. Il y a des aspects de certains de mes livres où il y a certaines références qui peuvent y faire croire. Et puis, des années après, ça se produit et qui semble justifier ces passages comme étant des prévisions. Mais non.
I just write fiction.
J'écris de la fiction.
Sentence by sentence.
Phrase par phrase. Je me considère comme un écrivain de phrases.
And if I may add,
et si je me permets d'ajouter,
when I lived in Greece,
quand j'ai vécu en Grèce, et j'ai commencé à connaître ces monuments et ces inscriptions sur les monuments en grec ancien, j'ai commencé à me rendre compte que non seulement les lettres, mais les formes des lettres individuelles, et ça a eu un effet très important sur mon travail. Ça s'est produit autour des années 1980. J'ai commencé à regarder les mots pendant que j'écrivais sur ma machine à écrire, en anglais bien entendu, mais je regardais bien les formes des lettres aussi. Et ça m'a donné un très fort niveau de concentration. Et parfois, je me rendais compte d'une certaine correspondance entre les formes, entre les lettres et les mots, ou entre les mots et les phrases. Et je me suis dit que c'est important pour moi d'avancer peut-être vers un autre niveau.
Ce que vous nous dites, Don DeLillo, c'est qu'en fait, quand vous étiez en Grèce, on en reparlera tout à l'heure avec vous, et que vous déchiffriez sans les connaître, en fait, ces inscriptions sur les monuments, c'était comme si un autre langage, en fait, était communiqué à votre esprit. Pas le sens des lettres, mais peut-être un sens graphique ou autre chose.
Je pense que c'est tout à fait vrai. Un langage de forme, ou en forme. Un langage qui a une histoire très longue, énorme. Je n'étais pas dans une situation, en tant qu'écrivain de langue anglaise, de tenter de le suivre, mais simplement de le regarder de façon superficielle.
En
ce qui concerne la beauté physique, la beauté visuelle de la langue elle-même, ça oui.
Et sur l'histoire d'être visionnaire ou pas, vous trouvez que c'est un peu ridicule quand on dit ça, que ça fait un peu chaman?
Je suis un petit gars qui a grandi dans le Bronx. Ça c'est qui je suis. Et plus je vieillis, plus j'y pense. Ces années précoces dans le Bronx.
Playing poker.
À jouer au poker et à jeter des petites pièces contre le mur. Ça, c'est ce que j'ai à l'esprit.
Je disais chaman parce que sur votre détestation d'être pris en photo, c'est vrai qu'elle, souvent, Don DeLillo, écrivain culte, voilà, refuse les photos, refuse les vidéos. Et vous dites parfois que vous êtes comme ces Indiens, cette tribu indienne qu'on appelle les Hopis, qui croyaient qu'on allait leur voler leur âme quand on les prenait en photo. C'est pour ça que je pense à chaman. Vous êtes une sorte d'Indien Hopi, Don DeLillo?
Non seulement j'évite d'être photographié, mais j'essaie d'éviter d'en parler, d'être pris en photographie.
Parce que là, on se fait voler son âme deux fois.
Si j'ai une âme.
Alors, la fiction, vous disiez tout à l'heure, je suis un gamin du Bronx, j'écris des fictions. Est-ce que la fiction n'aide quand même pas à mieux voir les choses? Parce que quand vous avez commencé à écrire Libra, votre roman qui parle de l'assassinat de Kennedy, j'ai lu quelque part que c'est quand vous avez remarqué que Lee Harvey Oswald, l'assassin, avait habité dans le Bronx à la même époque que vous, à quelques blocs, qui faisait même comme vous pour sécher les cours à l'école, il allait se réfugier dans le zoo du Bronx comme vous. Et vous expliquez parfois que c'est parce que vous avez vu ce qu'il avait vu que vous pouviez écrire le roman. Alors ma question c'est ça, est-ce que la fiction et l'intimité qu'elle permet, permet au fond aussi d'atteindre une autre vérité?
Je pense que ce qui s'est passé dans ce cas-là, dans ce cas spécifique, c'est que quand j'ai appris que Lee Harvey Oswald avait vécu à quelques blocs de chez moi, dans le Bronx, il m'est apparu que je pourrais peut-être explorer l'état d'esprit de ce gamin, puisque nous étions quasiment voisins, et ça m'a donné confiance. Pour pouvoir regarder en profondeur dans l'assassinat du président. Et ce livre, Libra, commence dans le Bronx avec Oswald en tant que garçon de 14 ans. Et à l'époque, moi j'en avais 16. Donc je voyais ce que lui avait vu. Je n'aurais jamais écrit un roman historique, à moins d'avoir appris cette coïncidence géographique.
On a reçu ici l'écrivain turc Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature, qui nous disait que quand il doit décrire par exemple une robe ou un objet ou une théière, comme cette théière qui est devant nous, il doit avoir la théière presque dans les mains ou la robe entre les mains. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que l'écrivain doit avoir une connaissance intime, presque sensuelle, sensitive des choses pour produire la meilleure fiction qui soit?
Je crois que ça aide. Si on peut regarder ou même toucher ce que vous décrivez, dans mon cas, je pense en trois dimensions. Je visualise. Les personnages dans mes romans sont souvent dans une pièce, dans une rue, dans le métro. Il y a le sentiment de la profondeur de champ aussi.
Et
peut-être ai-je été influencé par les films que j'ai vus en tant que jeune homme dans les années 1960. La plupart des films européens, d'ailleurs, qui ont été importés aux États-Unis. Et ça a eu un effet sur moi.
Which one?
Many of them.
Ah, beaucoup. Antonioni,
Fellini, Jean-Luc Godard, and others.
Jean-Luc Godard et beaucoup d'autres, parmi d'autres, et des films japonais.
Votre dernier roman s'intitule Zero K, pour Zero Kelvin, c'est la température à laquelle commence une possible cryogénisation, c'est-à-dire la possibilité de congeler quelqu'un dans l'espoir de le faire revivre un jour. La quête d'immortalité de nos contemporains, les questions que pose cette mort de la mort sont tout à fait au centre de votre roman, qui est un roman qui est dérangeant, envoûtant aussi, par ses dialogues qui semblent prononcés dans une atmosphère parfois ouatée, souterraine. En deux mots pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore lu Zero K, l'histoire elle est simple et assez implacable. Jeffrey retrouve son père qui s'appelle Ross Lockhart, c'est un homme d'affaires riche, puissant, dans un centre de cryogénisation, la Convergence, situé sous terre, aux confins de l'Oural. Et en fait, il le rejoint pour l'aider à préparer sa renaissance et celle d'Artis, la femme de Ross, qui est la belle-mère du narrateur et qui est atteinte d'un cancer, et que ce Ross a décidé de suivre. En fait, c'est un roman d'amour aussi, Zero K.
Yes, it's not only love.
Ce n'est pas seulement de l'amour.
Ross Lockhart.
C'est le fait que Ross Lockhart a réussi tout ce qu'il avait tenté.
Et
la plupart de ses aspirations étaient d'ordre financier. Il est milliardaire.
Il
ne peut pas utiliser plus d'argent qu'il n'en a déjà. Vraiment. Il sent déjà le regret de sa femme qu'il va perdre. Il décide de passer du temps dans ce lieu de la convergence connu sous le terme Zero K, qui a été installé pour permettre à des gens vivants de perdre leur sens de la vie et d'être placés dans des capsules cryogéniques avec de produits chimiques qui vont préserver leur corps pendant des années. Jusqu'au moment où la science sera arrivée au point où ils pourront être ressuscités et continuer de vivre pendant une période de temps indéfinie.
Mais je vous posais cette question, Don DeLillo. C'est drôle parce que, d'ailleurs, vous parliez de Jean-Luc Godard et des films que vous voyez lorsque vous étiez jeune. À propos de joueurs, vous disiez, au fond, c'est pas tellement une histoire de terrorisme, c'est une histoire de couple qui doit prendre une décision, exactement comme dans Le Mépris de Godard. Et au fond, je me suis dit aussi, dans Zero K, c'est aussi une histoire de couple et d'amour, c'est pour ça que je vous parlais d'amour, qui doit prendre une décision. Un homme va suivre sa femme dans ce nouveau pari pascalien qui est de tenter la mort de la mort. Donc est-ce qu'on ne s'est pas trompé finalement sur les romans de Don DeLillo en disant terrorisme, assassinat, trouble de l'Amérique ? Au fond, on en revient toujours à des sentiments humains de base. L'amour, le désir, la passion, l'amour qui n'aurait pas de fin. Comme dans Le Mépris aussi.
Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Je pensais que c'était quelque chose de secret et que moi seul le savais. Oui, ce sont les émotions humaines, les expériences humaines qui sont au cœur de mon œuvre. Dans certains cas, comme dans Libra, des événements se produisent qui sont empruntés à la vie réelle. Et ce sont des événements qui ont un sens profond. Et voilà ce qui devient important pour les lecteurs. Ils ont raison aussi. Mais il y a aussi autre chose, il y a l'amour.
Est-ce que finalement, dans cette époque que nous vivons aujourd'hui, où mourir commence à se à devenir de plus en plus une maladie évitable, pour les riches en tout cas. Est-ce que finalement le moment de méditer à nouveau sur la mort, sur ce que Norbert Elias, l'écrivain et sociologue, a appelé la solitude des mourants, serait revenu au fond ?
Nous avons tous eu l'expérience ou la connaissance de certaines religions où ceux qui suivent ces religions aspirent à une vie après la mort, aspirent à une extension de la vie spirituelle. À notre époque, nous sommes passés de cela vers l'espoir d'une vie physique après la mort. Si des gens qui dirigent des entreprises telles que Zero K dans la convergence, s'ils ont raison, et si des gens peuvent simplement survivre à la mort physique pour un certain temps, jusqu'à la science peut les faire revenir à la vie. Bien sûr, cela pose beaucoup, beaucoup de questions qui planent au-dessus de cette possibilité. Est-ce que cette personne qui sera réveillée dans 20 ans, est-ce qu'elle sera la même ? Que va-t-il se passer dans le cerveau de cet individu ? Et en fait, ce qui se produit dans des institutions de cette sorte, c'est que le cerveau est séparé du corps et il est conservé de façon indépendante. Et est-ce que des gens peuvent croire en fait que quand ils sont ressuscités ou rappelés à la vie, est-ce qu'ils seront rappelés à la vie avec le même cerveau qui fera les mêmes fonctions et qui aura les mêmes mémoires?
Je suis d'accord avec vous, Don DeLillo. Effectivement, beaucoup de questions se posent, mais est-ce que ce qui n'est pas encore plus fascinant, justement, dans cette époque que nous traversons, c'est que, en fait, cette ultra-modernité, cette cryogénisation des corps, nous ramène, au fond, toujours aux anciens mythes, aux anciens textes, aux anciennes religions, le Christ, ou même Osiris, chez les Égyptiens, qui est ressuscité, c'est coupé en morceaux, puis rassemblé et ressuscité. En fait, est-ce que le plus fascinant n'est pas, et c'est à l'écrivain que je pose la question, ce va-et-vient constant entre l'écriture qui dit le monde contemporain et au fond, ces plus vieilles histoires de l'humanité ?
Je ne pense pas que je puisse me mesurer aux implications soulevées par votre question. Les personnages de ce roman sont dans une situation telle que qu'ils trouvent leur voie vers véritablement un avenir étonnant. Bien sûr, il y a des gens dans la vie réelle qui sentent qu'ils peuvent faire la même chose. La différence, c'est que les personnages de ce roman peuvent choisir de mourir alors qu'ils sont en parfaite santé.
Oui, mais il est question aussi, l'un des personnages le dit, la vie éternelle appartient à ceux qui roulent sur l'or, roi, reine, empereur, pharaon. Au fond, on en revient toujours aux mêmes questions. Comment se survivre ?
Comment se survivre ? Une façon de se survivre est d'éviter les questions des médias.
I haven't succeeded.
Moi, j'ai pas réussi.
I'm getting closer and closer.
Mais j'y arrive.
C'est votre quête à vous. Est-ce que ce transhumanisme, quand même, qui est à l'œuvre dans Zero K, est pour vous encore un humanisme?
Je crois que ce qui se produit est un développement naturel de l'être humain. Ça a toujours existé sous une forme ou une autre. Maintenant, ça arrive en plus près d'une possibilité pratique. Comme certaines personnes peuvent le savoir, aux États-Unis, les gens en sont devenus conscients en raison d'un ancien joueur de baseball qui s'appelait Ted Williams,
qui a décidé
qu'après sa mort, il devrait être cryogénisé dans une entreprise de l'Arizona.
Et
je crois, je ne saurais pas le dire, mais je crois qu'on a séparé sa tête de son corps. Je pense pas que les gens qui admiraient Williams en tant que joueur de baseball aimeraient y penser.
C'est ça l'image qui a finalement présidé à l'écriture de Zero K, parce que vous dites, Don Melillo, que vos romans naissent toujours d'une image, hein, comme cet homme couvert de cendres qui sortait une valise à la main du World Trade Center. Quelle est l'image qui a présidé à la naissance de Zero K? Est-ce que c'est la tête de ce joueur de baseball, Ted Williams, donc mort en 2002 et que ses descendants ont cryogénisé, ou c'est une autre image?
The image is of the facility called the Convergence.
C'est l'image de cet endroit qui s'appelle la Convergence, le niveau de la convergence, où le personnage principal, Jeff Lockhart, marche longtemps seul dans des corridors absolument vides. C'est très très visuel dans mon esprit, c'est très cinématographique. Un jeune homme qui descend dans des couloirs, qui marche dans des couloirs, et il n'y a personne d'autre que lui. Et soudain, il y a un écran qui apparaît du plafond, et il s'arrête, il regarde les images qui sont projetées, et ces images le rendent vraiment, il se le terrifie. Des gens qui meurent, des gens au milieu d'une guerre. Et la question devient, qui est responsable pour la monstration de ces images? Est-ce que c'est un roman surréaliste, ou est-ce que c'est Zero K? Est-ce que c'est Zero K lui-même qui est un endroit surréaliste?
Il y a
un épisode vers la fin de la première partie où il y a des gens qui sont sur l'écran, une masse énorme de gens qui marche. Jeff, lui aussi, il marche tout seul à nouveau dans le couloir. Il voit l'image. Il continue de marcher. Et soudain, tous ces gens qui étaient sur l'écran sont maintenant dans le couloir, qui marchent vers lui. Il se met tout à fait contre le mur et il les regarde passer. Les mêmes personnes que celles qui étaient à l'image, elles sont maintenant à trois dimensions. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que moi, j'ai moi-même une image de cette scène et j'ai décidé de l'inclure dans le roman.
Vous dites souvent que vous êtes requis par un livre, en fait. D'autres pourraient dire « appelé », vous, vous êtes requis. L'expression est très forte, comme s'il s'agissait d'une mission à remplir, même d'un appel. On pense au chemin de Damas, à un éblouissement. Comment se manifeste ce fait d'être requis par un roman?
Je ne suis pas certain de ce que je suis requis de faire. Je suis requis d'avoir plaisir à ce que je fais, d'y trouver de la joie. Bien sûr, c'est dur. En fait, ce roman de taille moyenne m'a pris 3 ans et demi à écrire. Il y a 20 ans, je l'aurais écrit en un an.
Donc,
je suis requis de survivre à cette responsabilité, à ce défi. Mais pour moi, c'est une requête extrêmement heureuse. J'ai de la chance. J'ai eu une vie avec beaucoup de chance en tant qu'écrivain.
Up to this moment.
Jusqu'à ce moment.
Qu'est-ce que c'est une vie heureuse d'écrivain, en fait? C'est que le cerveau fonctionne bien, le corps fonctionne bien, les sujets ne manquent pas. C'est quoi une vie heureuse d'écrivain? Quand on pense à tous les écrivains maudits.
Quand j'ai commencé à écrire mon premier roman, j'ai travaillé pendant 2 ans, virtuellement, chaque jour. Et après ces 2 ans, et ce n'est qu'à ce moment-là que je me suis dit et que j'ai pensé que j'étais écrivain. Et j'ai décidé, oui, je suis un écrivain. Et je savais que, à l'époque où j'ai terminé ce livre, c'était 2 ans de plus, même si je ne peux pas trouver d'éditeur, je continuerai d'écrire. Je serai un écrivain pour toujours. Et j'ai eu beaucoup de chance à nouveau. C'est de la chance, parce que le premier éditeur qui a regardé le manuscrit, l'a accepté. Je n'avais pas d'agent. Et les gens sans agent, dans les années 70, même à l'époque, c'était très très difficile d'avoir quelque chose de publié.
Mais ce qui vous a fait vous sentir écrivain, c'était le fait que votre histoire soit acceptée ou c'était un sentiment plus intérieur, un bien-être, un rythme du corps quand il écrit?
Non, c'était tout intérieur. Je savais.
That I would ever publish a novel.
Ça ne voulait pas dire que mes ouvrages seraient publiés. Ça ne voulait pas dire que quelqu'un lirait ce que j'écrivais. Mais que moi, j'allais continuer, j'allais poursuivre. J'étais écrivain.
On va marquer une pause avec vous, Don DeLillo. On écoute votre premier choix musical. Vous avez choisi Charlie Parker, Now's the Time. Charlie Parker, Now's the Time, c'est le premier choix musical de Don DeLillo, grand écrivain américain avec lequel nous passons cette heure. Vous écrivez en musique, Don DeLillo, c'est important pour vous, la musique?
Non,
je n'écoute jamais de la musique pendant que j'écris. Mais j'ai eu beaucoup de chance, encore une fois, d'avoir un cousin plus âgé. Nous habitions tous dans la même maison, très peuplée, 3 générations d'entre nous.
Et
le cousin a découvert le jazz. Il est parti du Bronx jusqu'à Manhattan. C'est comme aller de
New Jersey.
Du New Jersey vers le Grand Nord. Et tout ce qu'il m'a raconté est apparu important. J'ai découvert le jazz. Et j'ai commencé à aller dans des clubs de jazz à Manhattan. Je l'ai fait pendant des années. C'était un plaisir énorme. Et j'ai des mémoires très précises du Vanguard qui est toujours présent, qui existe toujours, ce club. C'était là où j'ai écouté cette musique fantastique pendant des années. Et j'ai acheté les 33 tours que je viens de donner à mon neveu ou à mes neveux. Donc ces disques vont continuer de vivre.
Et le choix de Charlie Parker, Now's the Time, c'est lié au roman ou c'est un lien plus vaste avec votre travail d'écrivain?
Non, c'est pas relié à ce roman particulier, c'est relié à mon travail en général.
Now's the time to write. On a dit que vous écriviez comme Thelonious Monk. Vous êtes d'accord avec cette belle comparaison?
J'admire la musique de Monk. Oui, je suis un grand admirateur de Monk. Et je me souviens être allé le regarder, l'écouter dans des clubs de jazz de Manhattan. Et ce que Monk avait l'habitude de faire après un set, quand il y avait une pause, il sortait dans la rue et il faisait la circulation, il dirigeait la circulation. Là, c'était Monk.
Straight No
Chaser. C'était un des grands morceaux de Thelonious Monk.
Alors, vous publiez Zero Cash et Actes Sud, un roman qui est traduit de l'américain par Francis Kerlin, et qui, à mille lieues de tout gratte-ciel, comme souvent dans vos livres, Don DeLillo, nous plonge au fond d'un centre de recherche souterrain nommé Convergence et qui propose à de riches malades l'immortalité via la mort provisoire, la cryogénisation et une éventuelle résurrection. C'est l'occasion, prétendent ces dirigeants transhumanisme, d'accéder dans le futur à une forme d'humanité augmentée. La visite de ce centre futuriste et surréaliste est proposée au lecteur à travers les yeux de Jeffrey Lockhart, c'est le fils de Ross Lockhart, c'est le principal actionnaire de Convergence, qui convie donc son fils pour l'assister avant la cryogénisation de sa seconde épouse. Et on va assister à un radical combat existentiel entre le père et le fils, entre une foi fataliste presque dans les promesses de la science et un autre qui accepte, lui, la mortalité humaine au risque peut-être de la médiocrité. Il y a des phrases absolument terribles mais nécessaires comme « À quoi sert-il de vivre si nous ne mourrons pas à la fin ?» Et je voulais vous demander, Don DeLillo, si vous pensez qu'aujourd'hui, dans cette époque d'hypertechnologie, est-ce qu'au fond la technologie est la nouvelle religion, ou est-ce qu'au fond la technologie ne fait pas que reproposer la vieille promesse chrétienne « Tu ne mourras pas ».
Il y a beaucoup de vérité là-dedans, je pense. D'une certaine mesure, la technologie a remplacé certains aspects de la religion. Est-ce que nous nous demandons? Oui, certainement, les religions ne vont pas survivre aux avancées de la nouvelle science et de la technologie. Je crois que la plupart d'entre nous diraient peut-être que la religion va continuer. Ce besoin humain de religion va continuer. Et on pourrait se poser cette question, mais pour combien de temps?
Vous avez eu l'occasion de dire que Cosmopolis était un roman qui racontait le jour où on a cessé de vivre tendu vers l'avenir pour se concentrer sur les heures. Je me souviens d'une phrase que je cite. Le temps de l'horloge a accéléré la montée du capitalisme. Les gens ont cessé de penser à l'éternité. Ils ont commencé à se concentrer sur les heures d'hommes. Est-ce que Zero K est le roman qui raconte le jour où l'homme a recommencé à tendre vers l'avenir?
Je ne sais pas comment comparer Cosmopolis avec Zero K. Je n'y ai pas pensé. Peut-être que si quelqu'un fait un film à partir de Zero K, on pourrait comparer ce nouveau film à Cosmopolis, à celui qui a été tiré de Cosmopolis. Mais tout le monde sera content en ce moment-là.
Mais vous comprenez ma question. Dans Cosmopolis, c'est vrai que le personnage était concentré sur le temps court, en fait. Seul l'instant importait. Là, on est dirigé vers les instants tellement dilatés qu'on arrive à un futur indépassable. Il y a un nouveau rapport au temps, quand même. Est-ce que c'est pas aussi le message de Zero K, si tant est qu'il y ait des messages dans les romans ?
Non, il n'y a pas de message. Mais il est exact que dans Cosmopolis, ce qui comptait, c'était les instants. Tout se produisait en un instant. Et les personnages passaient toute sa vie à passer de l'est à l'ouest de Manhattan, dans une limousine blanche, dans une limousine allongée, qui est un exemple de la très courte période de concentration que l'on peut avoir. Ce sont deux idées, tout simplement, de deux groupes différents, écrits à des époques différentes. Je ne sais pas comment les relier. Moi, je n'essaierai pas de faire un lien entre les deux. Je n'essaie pas d'analyser le monde et la psychologie du genre humain. Je pense à des personnages individuels.
C'est toujours ça qui compte, Don DeLillo. Vous disiez tout à l'heure, j'ai vu ce personnage dans ce long couloir. Là, vous venez de nous parler de Cosmopolis avec ce personnage dans une limousine. Un roman, ça commence par un personnage, par un décor. C'est ça qui préside à la rédaction d'un roman.
Pour moi, c'est souvent une image, quelque chose de visuel. Pas toujours, mais souvent une image, oui.
Et
si l'image devient vraiment importante, je me sens devoir aller vers ma machine à écrire. Et je commence à écrire des phrases. Je me souviens dans un cas, comme dans mon roman Bruit de fond, il y avait beaucoup de temps avant que je ne travaille sur un roman. Et pour la première fois de ma vie, j'étais un petit peu angoissé à l'idée que rien ne se passait. Et dans un acte de désespoir, je me suis assis, j'ai introduit une feuille dans le rouleau de la machine à écrire et j'ai commencé à tenter d'écrire quelques phrases. J'écrivais des phrases. Et j'ai décidé que je décrirais une rue dans une petite ville au cœur de l'Amérique. Et j'aurais une image visuelle donc de cela. Très idéalisé. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai écrit phrase après phrase. Et finalement, j'ai trouvé quelque chose avec laquelle je pouvais travailler. Et j'ai continué, j'ai poursuivi.
Alors, vous parliez des images qui président à l'éclosion de ces livres. Il y a une image qui revient souvent dans votre œuvre, c'est ces images des avions qui foncent dans les deux tours jumelles. Et puis, il y a cette autre image, d'ailleurs, qui vient d'un film, le seul film, d'ailleurs, qui ait filmé l'assassinat de Kennedy. Alors, je vous pose la question, c'est un Français qui vous pose la question, un Français issu d'un peuple régicide qui a tué son roi. Et c'est peut-être parce que nous avons tué notre roi que nous ne mesurons pas, finalement, l'impact de l'assassinat de JFK. Est-ce que cet assassinat de JFK n'a pas été dépassé sur l'échelle des traumatismes de la nation américaine par la destruction des tours jumelles ?
That's a difficult question.
Question difficile. Ça dépend de l'âge de la personne qui a eu l'expérience de ces deux événements, dans une certaine mesure. Et moi, dans le courant de ma vie. L'assassinat du président Kennedy a eu un effet énorme, extrêmement puissant. C'est quelque chose qui se produisait en Amérique, qui aurait pu se produire n'importe où dans le monde, mais pas aux États-Unis, pas le président Kennedy en particulier. Et puis, bien sûr, j'ai reçu un appel téléphonique de mon beau-frère, le frère de ma femme, qui était au Texas. Il regardait la télé, il a dit « Allume la télé ». Et c'est ce qu'on a fait, et il y avait les tours jumelles en feu. Cet impact extraordinaire. Et je vais vous raconter quelque chose d'un peu plus personnel. Mon neveu et sa famille, sa femme, et ses deux enfants, deux petits-enfants, vivaient à un bloc des tours jumelles. Et on a réussi à les joindre par téléphone. Et on a pu leur parler. Et finalement, on a appris qu'ils avaient pu s'en sortir sans dommage. Je n'essaierai pas de comparer ces deux événements. L'un était très personnel et très puissant.
Je dis ça parce que dans Zéro Cas, on a l'impression que l'assassinat de JFK revient comme si dans votre écriture, finalement, certaines images fortes avaient besoin de se greffer dans une intrigue. Je vous cite, Don DeLillo. Parfois, l'histoire est un ensemble de vies singulières provisoirement en contact. Un homme armé d'un pistolet surgit d'une foule, s'avance vers le chef d'une grande nation, et plus rien n'est jamais comme avant. En fait, on a l'impression, quand on lit vos livres, Don DeLillo, que ce qui vous intéresse, ce sont ces situations de tournant, de crise, les moments où l'histoire change de bord. Est-ce que vous diriez que c'est ça aussi, finalement, votre poétique ? C'est-à-dire s'attacher au grand moment de bascule, notamment de l'histoire américaine.
Réfléchissez à un jeune Américain, seul dans une pièce. C'est là où il habite. Très peu d'amis. Et un jour, il décide d'acheter une arme. Il achète un pistolet, de façon illégale. Et puis vient le jour où il décide de sortir de sa chambre et d'entrer dans l'histoire. Et c'est ce qui s'est produit aux États-Unis et continuera de se produire pendant de très nombreuses années.
Parce que c'est le propre des US, de l'Amérique, ce type d'image d'un jeune homme entrant dans l'histoire, une arme à la main.
Ça fait partie de l'histoire américaine et ça le devient de plus en plus au cours des dernières décennies. Il y a des moments où il semble que ces jeunes hommes se sentent requis, comme s'ils suivaient les ordres de quelqu'un. Mais ce qu'ils font, en fait, est de remplir un sentiment profond de culture violente.
Il y a quelque chose de tragique quand vous dites ça. On a l'impression d'être dans le Fatum antique.
C'est vrai, particulièrement dans l'Ouest américain, par tout ce qui a été notre histoire, le pouvoir, le besoin des armes à feu. Les gens, naturellement, possèdent des armes à feu. Et dans certains endroits, ils peuvent légalement porter leur arme à l'extérieur de leurs vêtements pour que l'arme soit visible. C'est une tradition de l'Ouest, du Western.
Est-ce que vos romans sont, à votre avis, Don DeLillo, une clé de compréhension de l'histoire américaine? Comme on disait tout à l'heure, vous avez pu écrire sur Lee Harvey Oswald quand vous avez perçu qu'il avait vécu à quelques blocs de vous, qu'il fréquentait les mêmes endroits que vous quand vous étiez enfant. Est-ce que cette connaissance intime, finalement, de l'Amérique fait que En vous lisant, on comprend un peu mieux l'Amérique.
Je ne peux pas prétendre à cela moi-même. C'est aux autres de le dire. Mais à nouveau, tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu une vie heureuse en tant qu'écrivain.
Alors, je ne vais pas la poser à vous, mais vous, en tant que lecteur aussi de grands écrivains américains, est-ce que peut-être ceux que vous avez aimés, ceux que vous avez lus, vous ont permis à vous de mieux comprendre l'Amérique et de devenir aussi cet écrivain?
C'est vrai. Tout jeune homme, je ne lisais pas les auteurs que tout le monde lisait à l'école. Ce que j'aimais, ce que je voulais, c'est Hemingway, Faulkner, Fitzgerald. Hemingway était très important. Tout au début de ma fac, et avec un copain, nous étions tous deux des lecteurs de Hemingway. On traversait le campus en se parlant de choses simples, mais avec des dialogues à la Hemingway, avec les intonations, les pauses. Ça, c'était du pur Hemingway. Et c'était amusant, on s'amusait bien.
J'ai vu un documentaire que vous avez co-réalisé avec la BBC. Et dans ce documentaire, vous exposez l'idée selon laquelle l'écrivain n'a plus d'impact dans un monde où ce sont les terroristes qui écrivent l'histoire. En fait, c'est un extrait de dialogue de Mao 2, l'un de vos livres. Est-ce que vous attribuez encore une fonction à l'écrivain, justement, de décrire l'histoire ?
Oui, bien sûr, les gens ou certaines personnes dans Mao 2 pensent que la littérature n'a plus aucun but, qu'elle n'a aucun sens. Ce qui compte, ce qui change le monde, c'est le terrorisme. Les terroristes qui surpasse totalement les écrivains. C'est ce que disent les personnages dans Mao 2. Et moi, j'étais sur le point d'aller à Beyrouth pour un passage final, mais la guerre a commencé et j'ai pas pu y aller. Que faire ? J'ai regardé des photos.
Donc vous pensez toujours la même chose qu'à l'époque de Mao 2 ?
Est-ce que j'y pense toujours de la même manière ? C'est une question juste. Je ne pense pas que le terrorisme mettra fin à la littérature ou au film. Non, absolument pas.
Il y aura un film sur Zero K ?
Il y a des gens qui ont déclaré leur intérêt. C'est tout ce que je peux dire.
Et vous aimez cette idée que vos romans deviennent des films ?
Ça dépend bien sûr du film. Mais je considère qu'un roman est à un bout de la table et le film se trouve à tout à fait à l'autre bout de la table. Le réalisateur n'a pas besoin d'obéir à tous les aspects du livre. Ce sont deux entités complètement séparées. Moi, je suis le romancier.
On va marquer une seconde pause musicale avec vous, Don DeLillo. Vous avez choisi Sonny Rollins, A Night in Tunisia.
Thank you.
Sonny Rollins, A Night in Tunisia, c'est le deuxième choix musical de Don DeLillo qui publie 0K chez Actes Sud. Pourquoi ce choix musical, Sonny Rollins?
Oh, it could have been a dozen different.
Ah, ça aurait pu être une dizaine d'autres musiciens. Mais j'écoutais dernièrement Sonny Rollins et donc j'ai pensé à lui. C'est le musicien qui, très jeune, se tenait sur le pont de Williamsburg et pratiquait le saxophone. S'entraîner au saxophone. Et il le faisait là parce qu'il n'avait pas le droit de le faire dans l'appartement où il habitait parce que ça faisait trop de bruit. Et c'est devenu un très grand musicien.
Vous avez souvent expliqué, Don DeLillo, que quand vous étiez en Grèce, de 1978 à 1981, vous aimiez regarder les vieilles pierres et, sans les déchiffrer, regarder leur apparence visuelle et que ces pierres vous parlaient. Vous dites souvent aussi que vous tapez à la machine pour voir les lettres en gros, que le côté physique de la lettre est important. Vous qui êtes aussi un grand connaisseur de l'art, du monde de l'art, je voudrais vous demander tout simplement si pour vous, l'écrivain est véritablement un artiste. Est-ce que finalement, manipuler les mots, les taper sur une feuille blanche, c'est faire une œuvre d'art ?
Je dirais qu'un des grands plaisirs de contempler l'art, et c'est que je n'ai pas à en parler. J'absorbe l'image, je l'apprécie. C'est un grand plaisir. Et je n'ai pas besoin d'écrire quelque chose là-dessus ou d'en parler. Pour revenir à Athènes, quand j'y étais, des événements terribles se produisaient dans d'autres parties de cette région. Et les gens fuyaient vers la Grèce, fuyaient vers Athènes, des gens qui venaient d'Iran pendant la Révolution, des gens de Beyrouth et d'ailleurs. Et en marchant simplement dans les rues, tous ces gens qui étaient des réfugiés, d'une manière ou d'une autre, on les rencontrait. Il y avait ce sentiment de l'histoire qui était en train de se réécrire.
La question que je me pose toujours sur vous, Don DeLillo, vous écrivez toujours sur votre machine à écrire. Au fond, vous n'êtes pas très proche dans votre manière d'écrire de l'hypertechnologie. Et pourtant, vous ne cessez d'écrire sur l'hypertechnologie. Comment expliquer ce qui pourrait apparaître comme une contradiction ?
Oui, c'est une contradiction apparente. Mais je peux penser à la technologie au sens le plus large. Je n'ai pas besoin d'être expert avec un iPad ou un smartphone. J'y pense dans un autre contexte, à un autre niveau. Comment cela nous change. Et à la façon dont nous y réagissons. Ce qui va se produire avec les gens plus jeunes qui ont grandi avec ces additions technologiques.
Il y a une image à la fin de votre livre qui est une image très très belle. Deux fois par an, le soleil couchant s'aligne parfaitement avec les rues de New York. Ce phénomène urbain est connu comme le Manhattanhenge. Voici ce que vous en dites. Le disque solaire saignait dans les rues, éclairait les tours autour de nous et je me dis que le gamin ne voyait pas le ciel s'effondrer sur nous, mais découvrait le pur émerveillement du contact intime entre la terre et le soleil. Est-ce que cette image, Don DeLillo, est celle de la science, au fond, et annonce-t-elle le paradis ou annonce-t-elle l'enfer ?
This happens predictably.
Ça se produit de façon prévisible, très prévisible, deux fois par an. Et ça devait se produire cette année. Ces deux jours-là étaient très nuageux. Et donc, l'événement ne s'est pas produit. Mais la science peut prédire quand ça va se produire.
Et
il y a plus à dire à ce sujet. au sujet des dernières pages de ce livre. Il y a de très nombreuses années, j'étais dans un bus à Manhattan et je passais de l'ouest à l'est de Manhattan. Il n'y avait que trois autres personnes dans ce bus et j'ai entendu une voix. Et en fait, c'était un jeune garçon qui faisait des bruits. Il ne prononçait pas de mots. Il ne pleurait pas. Il faisait des bruits à haute voix, comme ça. Et je me suis rendu compte, quasiment en même temps, que la lumière pénétrait l'autobus d'une façon très inhabituelle. Je pouvais voir mes mains qui changeait à cause de cette lumière. Je me suis retourné et je regardais le garçon qui regardait, en fait, l'endroit d'où on venait, l'ouest, le dos vers moi, qui regardait par l'arrière du bus, et il criait. Et son père ou sa mère était avec lui. Et j'ai compris que c'était le coucher du soleil, le crépuscule qui l'avait étonné. Je ne savais pas que c'était un événement naturel, mais c'était étonnant, c'était quelque chose dont on allait se souvenir, et quand je m'en suis souvenu, j'ai décidé de conclure mon roman de cette manière-là.
Dernière question, Don DeLillo. Votre immortalité, à vous, votre immortalité d'écrivain, est-ce que vous y pensez souvent?
Non, je n'y pense pas. Si mes livres disparaissent 10 minutes après que je meurs, ça ne sera pas de ma faute.
Vous aimeriez, vous, l'immortalité par cryogénisation?
Ouais, s'il y avait de la nourriture que l'on puisse manger aussi, ouais.
Merci beaucoup, Don DeLillo.
You're very welcome.
Et j'en profite pour remercier l'excellent Michel Zlotowski qui a interprété Don DeLillo aujourd'hui. Merci Michel.
Mais c'était un plaisir.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura avec la complicité de Gabriel Bordron, Anne-Laure Chanel à la réalisation et à la technique, Yvan Turc pour la prise de son et au mixage, Stéphane Démon. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et tweeter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée, même après cryogénisation, sur franceculture.fr. Cette émission donc avec Don DeLillo qui publie 0K chez Actes Sud.